Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Oui, de retour sur RMC, RMC Story, canal 23, toujours avec Rémi Barre et Pierre Rondeau, Fatima Benomar et Fred Hermel, avec vous bien sûr au 32-16, pour réagir à l'anniversaire du jour, et c'est celui de MeToo, 5 ans après les révélations sur l'affaire Weinstein dans le New York Times. Ce mouvement a pris une ampleur incroyable dans le monde entier, hashtag dédié, libération de la parole des femmes, enquête, révélation. On peut dire que MeToo a été une révolution, Rémi, pour les femmes bien sûr, mais aussi les hommes.
C'est ce que s'accordent à dire la plupart des militantes féministes qui parlent de révolution, MeToo, même si la libération de la parole se poursuit et qu'il y a encore bien du chemin à parcourir. Globalement, le nombre de plaintes pour violences sexistes et sexuelles a fortement augmenté avec une hausse de 33% sur un an. Ça, ce sont les derniers chiffres. Libération de la parole donc. Mais le viol reste également et toujours le crime le moins puni. En 2020, 732 viols de femmes majeures ont fait l'objet d'une condamnation en France. Sur les 94 000 plaintes déposées pour viol ou tentative, libération de la parole, tout de même avec parfois ses complexités, comme par exemple dans l'affaire opposant la journaliste Sandra Müller à l'ancien patron de la chaîne télé Equidia, Éric Brion. C'était le début du hashtag balance ton porc. Elle accusait l'homme de l'avoir harcelé sexuellement. Il reconnaîtra des propos déplacés, s'excusera, mais gagnera son procès en diffamation, dénonçant un amalgame entre drague lourde et harcèlement sexuel, avant qu'en appel finalement la journaliste soit reconnue comme ayant était de bonne foi. C'est un exemple parmi d'autres de la complexité de ces affaires.
Alors, avec MeToo, le comportement des hommes a-t-il changé ? Fatima Benomar.
La seule chose qui a changé, c'est qu'on a enfin, par rapport à ces enjeux, la place qu'ils méritent dans le débat public. Maintenant, non. Tu citais les chiffres du Haut Conseil à l'égalité. Et il y a encore quelques semaines, on parlait des représentations en fait du viol et des violences sexuelles chez les jeunes, qui sont toujours aussi catastrophiques. Et on est toujours à 10% de plaintes. Une fois qu'on, si on porte plainte, il n'y a que 10% des accusés pour viol qui sont condamnés, alors que c'est plus que exactement l'inverse. Toutes les enquêtes qui montrent, qui parlent en fait des fausses accusations disent qu'elles sont entre 3 à 8% grand maximum. C'est-à-dire que la justice part du principe que 9 femmes sur 10 portent plainte en mordant,
pour des vraies raisons, entre guillemets, oui.
Bah non, pour des fausses raisons. Alors que les enquêtes montrent l'inverse et on est surtout confronté au classement sans suite compulsif. C'est-à-dire quand les femmes.
Mais là, on parle de MeToo. Là, on est sur un autre débat. Est-ce que depuis MeToo, il y a eu quand même un changement positif? Et est-ce que les hommes ont changé de comportement? Franchement, je vois que les comportements, ils ont changé, même dans les rédactions. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis MeToo.
En tout cas, c'est sûr que comme c'est devenu un sujet, c'est sûr qu'il y a une alerte, on va dire. C'est-à-dire que, très clairement, moi, j'ai commencé à militer en 2009. Non seulement c'était pas un sujet, mais par exemple quand il y avait l'affaire DSK, on avait eu droit aux pires tirades. Il y a pas mort d'homme, ce n'est qu'un troussage de domestique, etc. Là, je pense qu'aujourd'hui, les contradicteurs font plus attention à ce qu'ils osent dire, et à leur ligne de défense. Et puis même, il y a une reconnaissance, on va dire, des faits. Par exemple, pendant des années, Mads Neff, qui limite s'auto-incriminait dans son œuvre, l'écrivain pédocriminel Mads Neff, et ça passe ses crèmes. Il a fallu que l'une de ses victimes grandisse, Vanessa Springora, et prennent la plume et parlent du consentement. Et comment on a pu penser en fait que ce consentement était libre et non faussé, qu'il n'était pas biaisé. Donc oui, les données du débat public changent. Maintenant, on n'arrive toujours pas à la réparation et à la reconnaissance pour les victimes.
Fred Hermel, est-ce que vous avez changé de comportement depuis... Vous vous comportez toujours bien, Fred, mais
oui,
de comportement depuis MeToo, et est-ce que ça vous a fait évoluer?
Alors déjà, je me réjouis que Fatima Benomar dénonce le laxisme de la justice. Oui, c'est vrai, il y a laxisme de la justice. Mais dans tous les domaines. Donc je me réjouis que même les gens de gauche, affirmés de gauche, reconnaissent cela. Est-ce que j'ai changé? Moi, j'ai toujours été... moi, j'ai toujours dragué avec des poèmes. Donc voilà. Oui. Je suis célibataire à 53 ans.
Ça dépend ce que vous dites. Il peut y avoir des poèmes qui prêtent à...
On disait de Mads Neff qu'il avait une très belle plume.
Je ne l'avais jamais lu. Je ne le connaissais pas. Désolé, mon domaine de culture, je ne connaissais pas cet écrivain avant le bouquin Le Consentement. Oui, je n'ai pas changé mon comportement avec les femmes parce que j'ai toujours été respectueux, mais parce que j'ai été élevé entre trois femmes, ma grand-mère, ma mère, ma sœur. Ensuite, dans la parole, c'est vrai qu'aujourd'hui, les blagues, etc., dans la rédaction, on fait attention, quoi. par rapport à il y a 5 ans.
Là, il y a eu un changement de comportement, on est d'accord.
Mais oui, parce qu'il y a une sorte de corset aujourd'hui, il y a une sorte de peur chez les hommes de dépasser une limite ou de se faire accuser de je sais pas quoi pour une blague. Donc oui, je vois très bien avec qui je peux faire une blague aujourd'hui.
Oui, donc c'est pas les comportements qui ont évolué, c'est la peur qui est arrivée. C'est quoi de différent?
Mais sur des blagues, je dis sur des blagues ou sur des trucs.
Il a raison, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a enfin eu, grâce à MeToo, il y a eu toute une dynamique qui a fait des vraies enquêtes, par exemple, sur les cas Hulot et PPDA, qui par ailleurs sont toujours innocents aux yeux de la loi. Mais très clairement, c'est parce qu'on a aménagé, et ça, et je suis sûre que maintenant, plein d'hommes agresseurs sont en train de se dire.
Moi, je suis pas d'agresseur.
Plein d'hommes agresseurs sont en train de se dire, à tout moment, je vais avoir un coup de fil d'Élise Lucet sur des faits que j'ai commis il y a 40 ans.
Oui, alors après, il y a le problème des dérives de MeToo. On voit l'exemple de Julien Bayou. On voit ce qu'est aujourd'hui. Quand tu vois que Julien Bayou, qui est totalement là-dedans, aujourd'hui parle de maccartisme, c'est que vraiment, il y a eu un dévoiement d'un mouvement qui pouvait être positif. Le problème aujourd'hui, c'est que...
Donc, il ne faudrait pas que ce mouvement soit confisqué, quoi, c'est ça que vous dites?
Il est déjà confisqué. Et c'est vrai que dans la liberté d'expression, aujourd'hui, MeToo fait peser une chape de plomb, ça c'est clair. Ensuite, par exemple, on va être honnête. Sincèrement, je ne dis pas la même chose à une femme de 25 ans qu'à une femme de mon âge.
C'est normal.
Oui, c'est normal. Oui, mais aussi parce qu'avant tu pouvais peut-être déconner, etc., faire des blagues, etc. Et aujourd'hui, par peur de la réaction, tu ne fais pas de blagues.
D'accord. Bon, je continue à subir malheureusement des blagues sexistes et du harcèlement dans la rue qui vont bien au-delà par ailleurs des blagues sexistes.
Le harcèlement dans la rue. Alors, MeToo n'a rien changé. C'est de pire en pire. Attends, je termine. C'est de pire en pire. D'accord. Et là, on devrait. Et dans les transports en commun, c'est du délire. Il suffit de suivre. Et ce qu'il y a de bien, c'est qu'aujourd'hui, les femmes font des vidéos et les mettent sur les réseaux sociaux pour dénoncer ces agressions.
De loin, l'espace public n'est pas le plus dangereux pour les femmes. Et l'espace le plus dangereux pour les femmes, et ça, toutes les statistiques le disent, c'est le foyer, c'est la maison. Oui. Ce sont les violences masculines privées. Et des Adèle Haenel et des Camille Kouchner, on en parle aujourd'hui parce qu'elles ont eu un certain aura. Mais combien de personnes victimes de violences intrafamiliales, incestueuses, une personne sur 10 en France disent avoir vécu un inceste. Quand même, un jour, il va falloir que ce MeToo là explose encore plus. Et dans les milieux du cinéma, Adèle Haenel en a parlé, mais les systèmes de ce qui se passe dans les tournages, c'est quand même incroyable. Ce sont des zones d'impunité incroyables.
Pierre Rondeau, est-ce que vous, comme beaucoup d'hommes, MeToo vous a fait réfléchir? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui, au début de MeToo, se sont dit, est-ce qu'à un moment, j'ai pas déconné? Est-ce que j'ai pas eu un comportement qui pourrait prêter à
bien évidemment. D'ailleurs, on a tous été obligés, je pense, Rémi ou Fred et moi... sous le plateau, on a tous été obligés, au moment de MeToo et de ce hashtag, à se poser des questions si effectivement on n'avait pas, dans notre histoire, dans notre passé, pu déranger par des dragues lourdes ou des comportements peu respectueux vis-à-vis de la gente féminine. Donc bien évidemment, on s'est posé la question et je me suis posé la question et je continue à me poser la question. Je pense pas, alors pour reprendre le terme du débat, parce que n'étant pas totalement et pleinement compétent sur le sujet des violences faites aux femmes ou même des formes de discrimination vis-à-vis des femmes, j'ai simplement donné mon point de vue, mon opinion personnelle. De là à dire que j'ai peur, alors comme je me suis posé la question et comme maintenant il y a une injonction à se poser la question du passé, je me suis rendu compte qu'effectivement, je n'avais pas à avoir peur de ce que j'ai pu faire par le passé.
D'accord.
Déjà, premier élément. Donc, je n'ai pas peur et je pense pas avoir changé mon comportement. Je rejoins Fred là-dessus. Peut-être parce que, de par mon éducation, je me suis jamais, je pense, mal comporté vis-à-vis des femmes. Je n'ai pas à avoir peur des suites ou des représailles. Peut-être que j'aurai des problèmes plus tard, mais en tout cas, moi, personnellement, c'est mon humble avis. Je n'ai pas peur. Par contre, il y a effectivement une injonction et inconsciemment ou consciemment cela pose à dorénavant respecter l'ensemble finalement des personnes, y compris les femmes comme les hommes d'ailleurs, on respecte tout le monde, qu'elles soient les blagues.
Tu fais plus gaffe, c'est ça que
je veux
dire.
Je veux dire les blagues sexistes, les blagues homophobes, les blagues antisémites, les blagues racistes. Il y a 30 ans, 40 ans, c'était totalement banalisé, accepté, bien vu, bien évidemment, et c'est normal. C'est pas une question de peur après MeToo. C'est normal de s'arrêter, de se censurer. C'est une prise de conscience, mais qui est normale. Donc c'est pour ça que je parlerai pas de peur. C'est simplement une prise de conscience, c'est comme ça. Tu le dis, de simplement vivre pleinement et bien avec l'ensemble des membres de la société et ne pas s'autoriser pour une raison rigolote ou de déconnade à faire des blagues sexistes ou homophobes ou antisémites.
Alors on est avec Thomas qui nous appelait de Montpellier au 32-16 et qui est commercial. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC. Thomas, est-ce que le comportement des hommes a changé depuis MeToo?
Alors je ne sais pas si c'est le comportement des hommes en général, mais en tout cas le mien, oui. de par tout ce qu'on peut entendre. Je suis amené à être de temps en temps à travailler avec des femmes. Aujourd'hui, je monte pas dans un ascenseur avec une femme.
Ah, carrément, à l'américaine, quoi.
Ah ouais, non, aujourd'hui on entend tellement de choses, ça peut tellement dévier dans un rendez-vous avec une femme, je ferme pas la porte du bureau.
D'accord, mais parce que vous avez peur de quoi, Thomas ?
Mais qu'est-ce qui me dit que dans un mois, pour X raisons, cette femme-là, elle a besoin d'argent, et elle dit que j'ai pu avoir un comportement déplacé, je l'ai embrassé, je l'ai peu importe.
Ouais, c'est pas une histoire d'argent, Thomas. Mais
Thomas, vous l'avez pas fait ? Pourquoi s'alarmer, pourquoi s'inquiéter en disant non, je vais pas fermer la porte.
Aux États-Unis,
peut-être. Si vous voulez, mais là, en l'occurrence, Thomas, c'est pas fermer la porte ou pas du bureau. C'est l'embrasser ou pas la personne.
Non, Thomas, il te dit avec MeToo, il a peur d'être accusé.
Fatima vient nous expliquer que l'immense majorité des plaignants.
Les stats, elles ne valent que quand ça tombe pas dessus.
On est en train de tomber dans une américanisation du débat et une mystérisation du débat.
Thomas, il a le droit de penser ce qu'il veut.
Je le dis à Thomas. Thomas, ensuite, on pourra discuter, il pourra répondre. Mais Thomas, n'ayez pas peur si vous n'avez pas justement...
Mais
là, on est en train de diaboliser le débat.
Le client porte plainte pour un café servi trop chaud dans un McDo. Le client porte plainte.
Mais ça n'arrive pas en France, Thomas. C'est un exemple juridique américain.
Mais quitter pour dire à Thomas je ne dis pas, je suis pas en train de le dire.
Simplement, il est en train de calquer le modèle américain sur le modèle franco-français.
Et alors, si lui ne le sent pas avoir peur. Mais si lui le sent comme ça.
On n'est pas dans un conflit des sexes, dans une guerre des sexes.
Mais ça, c'est ce que toi tu dis. Mais Thomas,
moi, je l'invite. Je l'affirme pas, je l'invite à ne pas avoir peur.
Mais quand même, ça doit vous peser, Thomas.
Non, c'est pas. Après, ça pèse celui problème à celui qui aurait peut-être des intentions déplacées, mais si c'est juste anticipé pour ne pas avoir ce genre de désagrément, c'est pas en soi à vivre, c'est pas gênant. Après, étant séparé depuis peu, demain, je sais pas comment je vais faire pour aborder une femme.
D'accord. Bah en tout cas, merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous sur RMC. Fatima, vous vouliez répondre.
Non, je suis un peu mortifiée que 5 ans plus tard, le débat soit de cette teneur-là. Enfin, s'il y a eu un MeToo média, un MeToo inceste, un MeToo politique, un MeToo sport, etc., c'est parce que dans toutes ces sphères, il y a des femmes qui subissent l'omerta, qui subissent des violences sexuelles, des violences graves, et qui, elles, ne peuvent pas parler, parce que elles se prennent des représailles quand elles parlent. Elles sont discriminées. Elles, tu sais que sur une femme sur 3 qui fait des démarches dans son boulot pour contre du harcèlement sexuel doit quitter son travail. C'est-à-dire c'est ça en fait le corps des problèmes, c'est ça le réel danger. Le réel danger, c'est pas ce qui est exprimé là. Non, mais je l'entends. Je dis juste qu'il faut lui donner proportion gardée à cette expression par rapport à ce dont on parle. S'il te plaît, on est en train de fêter l'anniversaire. On parle de ça.
La question, les comportements des hommes ont-ils changé? Lui te dit oui, mon comportement a changé.
Juste dernière chose, pendant le confinement, donc après MeToo, et c'est là que ça taille ma thèse sur les violences masculines ont explosé.
Fatima, c'est un autre débat. Thomas, il te dit juste le comportement des hommes a-t-il changé? Thomas, il te dit mon comportement a changé, en bien ou en mal. Mais en tout cas, lui, il te dit voilà, aujourd'hui, effectivement, je ne laisse plus la porte de mon bureau ouverte et je ne prends plus l'ascenseur avec une femme.
C'est l'histoire des femmes manipulatrices, faiseuses de chantage.
Mais pas du tout.
C'était ça la
tenue. Il peut avoir peur de ça. Je veux dire, et ça n'exclut pas. Et ce que tu disais très bien, qu'il y a énormément de femmes aujourd'hui qui n'obtiennent pas réparation, elles sont violées, etc., que les plaintes ne sont pas prises, qu'il y a énormément d'efforts à faire. Mais on peut écouter aussi un homme qui a changé de comportement.
Je vais vous donner un exemple rapidement. Un ami entraîneur de football. Il y a dans son staff technique une jeune femme qui s'occupe de. Voilà. Il m'expliquait l'autre jour qu'il ne fait, alors qu'ils doivent travailler tous les deux, sur les joueurs, etc., qu'il ne fait jamais de réunion dans son bureau seul avec cette femme. Il y a toujours au moins une troisième personne et la porte est toujours ouverte, justement pour éviter qu'il puisse y avoir. Voilà. Donc le comportement des hommes a changé.
Fausse accusation.
Oui. Non. Oui. Mais pas forcément. Mais comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Il n'y a rien de truc. Une petite blague ne peut pas être mal comprise. Donc oui, le comportement des hommes a changé.
Les blagues sont mal comprises.
Non mais attends.
Tu trouves ça mal que ce monsieur ne veuille pas être avec une femme de 25 ans. Il en a près de 60. Il travaille avec elle. Et on va éviter tout.
C'est triste.
Bah, c'est triste, tout malentendu. Il y a toujours une troisième personne et la porte est ouverte. Voilà une
mais
des conséquences.
Triste, mais si ça peut empêcher non, des blagues, peut-être que c'est pas possible.
Si t'es de bonne intention,
tout malentendu.
Mais j'entends, mais moi je sais que j'aurais pas peur de m'enfermer dans un bureau avec une jeune femme de 25 ans.
Il n'y a aucune place au malentendu. Et d'ailleurs, moi j'ai tellement vécu dans un moment où il n'y avait pas de malentendu que, d'ailleurs, à l'époque, j'étais même pas au courant de mes droits. J'ai un échange mail, je pourrais te le montrer, où le mec, mon supérieur, me dit, j'aimerais, qui avait plus de 60 ans, à l'époque, j'en avais 20 et quelques, je fantasme sur une relation dominée avec toi, et c'était avec le mail de sa boîte. Pour se dire qu'en général, les horreurs qu'on entend, il n'y a aucune place à l'ambiguïté. Tu vois?
On est d'accord avec ça. Alors, en tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Le comportement des hommes a-t-il vraiment changé depuis le début de MeToo?
Le nom qui l'emporte, un nom qui l'emporte à 59% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
On peut quand même dire qu'il y a 41% des hommes qui ont changé leur comportement.